Et maintenant, les sentiers du monde. Nous nous trouvons devant une petite maison nichée entre deux magnifiques résidences. À sa façade, on la prendrait pour une maisonnette de campagne. La vigne vierge coule sur les murs blancs et, à l'entrée, une petite femme potelée nous accueille avec un large sourire en nous souhaitant la bienvenue. Et après avoir échangé quelques mots avec notre compagnon, qui est un habitué de la maison, elle s'efface devant une salle agréable, occupée de tables au style local avec un âge difficilement déterminable, des chaises hautes avec un dossier haut, peintes de vert et de rouge. Et au mur, les murs sont magnifiquement rehaussés d'azulejos. Les azulejos sont des faïences, donc carrées, avec des dominances de bleu. Puis, après nous être installés, le noir se fait et l'assistance devient soudainement silencieuse. Car la petite femme, la maîtresse des lieux, glisse sur ses épaules un fichu traditionnel à longues franges des fadistas. Elle devient aussitôt une autre femme, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés, la voix grave et puissante, elle libère d'une voix chaude un chant envoûtant. Cette petite femme, je le comprends aussitôt, c'est Maria da Fé, l'ultime vestale du fado dans ce dernier temple, le Senhor Vinho, qui se trouve sur les hauteurs de Lapa, le quartier chic des ambassades de Lisbonne. Lisbonne, la capitale du Portugal. Ce pays est, je pense, le plus méconnu des pays européens par nos compatriotes. Il y a certes la ville de Porto, où a évolué une de nos vedettes de football, mais le pays en lui-même semble subir un ostracisme dans l'organisation des voyages. L'Espagne assure avec ses vestiges musulmans une rétention efficace. Pourtant, le Portugal a également subi l'influence de l'islam. Les Arabes y ont régné depuis le 8e siècle jusqu'au 12e siècle. Et tout, depuis l'architecture jusqu'au moindre détail de la vie quotidienne, recèle des traces de cette influence.
Partiste e o vento frio e triste varreu toda a primavera. E agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. E agora as folhas ao abandono morreram à tua espera.
Lisbonne, qui, comme Rome, est bâtie sur cette colline, Lisbonne est la ville la plus accueillante, la ville portuaire la plus attirante d'Europe. Son nom, qui se prononce Lisbonne, s'écrit Lisboa. Ces collines qui tombent à pic sur l'océan sont couvertes de doux embruns et de parfums, de bois d'épices, surtout aux collines, les collines d'Alfama, Alfama et de Santa Cruz, dont les venelles entremêlées rappellent notre Casbah. Ces deux quartiers donnent une idée précise de ce que fut Lisbonne à ses origines, à l'époque arabe. Certes, Lisbonne a été conçue, existait du temps des Phéniciens, mais ce n'était qu'une toute petite bourgade. Il a fallu l'arrivée des Arabes pour que Lisbonne devienne une grande cité. Dans ces deux quartiers, le quartier d'Alfama et de Santa Cruz, il y a justement cette influence arabe. On la ressent, elle est partout. Au matin, les venelles, les escaliers, les passages sont surencombrés par le marché. L'odeur de la sardine et celle des grillades embaume. Elle est partout. Elle vous chatouille le palais. Le Portugal est, il faut vous le préciser, le premier pêcheur de sardines et aussi de morue, le bacalao. Et il rivalise cette odeur, les odeurs de sardines, de grillades, rivalise avec les exhalaisons des tabernas typiques, ces tavernes où il y a ces relents de vin particulier, des vins portugais. La cathédrale d'Alfama ressemble à une mosquée, mais surchargée d'art baroque. Et chaque année, au 13 juin, il règne aux alentours une euphorie fantastique. Saint Antoine de Lisbonne y est fêté de manière insensée durant une semaine. Chaque maison se transforme en une sorte de cabaret. Devant chaque entrée, on grille des sardines et des brochettes. La foule danse, elle se laisse aller à la liesse. Il y a des orchestres à chaque carrefour, et leurs flonflons se superposent en une cacophonie délirante. Partout aussi, sur des étals de fortune, des petits pots de basilic sont alignés, en attendant d'être offerts par des garçons aux jeunes filles avec un poème et un œillet, non pas en l'honneur de la Révolution, celle des œillets qui a renversé la dictature fasciste, mais tout simplement parce que au mois de juin, c'est la saison de cette fleur qu'on trouve partout en pot sur les balcons, que les Lisboètes ou les Lisboans, tout dépend de la façon dont on veut les appeler, les Lisboètes savent orner leurs balcons mieux que tout le monde. Tout Lisbonne a le goût de la mer. Elle est partout. Et les mouettes survolent tous les espaces. Les espaces, d'ailleurs, qu'elles recouvrent de leur guano, leurs excréments. Et le château Saint-Georges, qui est imposant, en est recouvert. Le château Saint-Georges est non loin du Rossio. Le Rossio, c'est aussi le nom d'une place au cœur du quartier, le quartier du même nom, et au centre même de la ville de Lisbonne. C'est du moins le nom ancien de la place qui porte le nom de Pedro IV, donc Pierre le IV, que d'ailleurs personne n'utilise, et ce malgré son imposante statue perchée sur une haute colonne, un peu comme la statue de Nelson, l'amiral Nelson, à Trafalgar Square à Londres. Le Rossio, c'est le nom populaire. Le nom courant, c'est d'ailleurs là, dans cette place, qu'au XVIe siècle, on y brûlait les sorciers et les hérétiques, surtout ceux qui avaient encore gardé quelques pratiques musulmanes ou juives. C'est sur le Rossio que se trouve le café Nicolas. Ce café est peut-être le plus célèbre, mais c'est sans doute le plus ancien et sûrement le plus attachant des vieux cafés de Lisbonne. Sa clientèle est sans âge. Il n'y a que des hommes attablés devant leur petit café serré, qui ne peut provenir que du Brésil, bien sûr. Faut-il vous rappeler que le Brésil fut une colonie portugaise. Ils y passent des heures, des journées, des années à la même table. Certains clients ont leur table réservée depuis plus de 30 ans. Ils ont de toute évidence connu le même décor, avec des glaces teintées modern style, c'est-à-dire de cette époque des années 20, 1920, et un dallage de marbre lustré. Seules les chaises sont récentes, elles datent des années 50. Comme la plupart des garçons, en noir avec des nœuds papillons, à l'exception de deux d'entre eux qui, avec leur perclusion et leur rhumatisme et courbature, semblent attester de l'antiquité du lieu. Ils vous parlent admirablement du poète Bocage, dont la statue d'ailleurs de grandeur nature domine le fond de la salle où on vous sert des collations, on sert à manger. Le café Nicolas, c'est un peu l'âme du Rossio, c'est aussi l'âme de la ville, pourrait-on dire. Il a réuni dans sa salle la plupart des personnages de la ville, les personnages célèbres. Les garçons vous parlent admirablement de tous ces personnages, et surtout du poète Bocage, qui, je vous l'ai dit, a sa statue dans la salle. On affirme qu'il y réunissait, en 1789, ses amis pour leur parler de la Révolution française. Au pied de sa statue, un de ses vers chante la liberté, mère du génie et du plaisir. En ce moment-là, Nicolas n'était qu'un petit bistrot, un botequim, comme on dit, une petite bottega. Dans ce café, chaque garçon a d'ailleurs une histoire extraordinaire à raconter. Lorsqu'elle ne concerne pas un personnage illustre, elle relate un événement. Tous les garçons connaissent l'histoire du café et ils vous racontent que ce sont d'ailleurs les Vénitiens qui ont rapporté d'Arabie au XVIIe siècle l'idée même des maisons de café. Ils vous disent aussi que le mot café vient de l'arabe qahwa. Le Nicolas est un café, il est l'âme de Lisbonne, mais ça n'est pas l'endroit le plus couru de Lisbonne. Le Nicolas rappelle le Tortoni Porteño de Buenos Aires, dont je vous avais déjà parlé, qui est cher à Borges. Mais il n'attire d'ailleurs que, comme le Tortoni n'attire que certaines vieilles personnes en mal de souvenirs. Il exhale une douce mélancolie qui ne peut concerner que les touristes qui ne veulent pas faire les parcours traditionnels des édifices publics, les édifices classés. Les Lisboans vont au Suissa, le café suisse, l'établissement le plus fréquenté, celui que toute la ville choisit pour se donner rendez-vous. Il est moderne, ou plutôt anonyme, autrement dit assez laid. Mais il s'y dégage une certaine gaieté qui n'explique pas d'ailleurs la foule, et qui en fait est le fait même de la foule. C'est peut-être là la définition de l'auberge portugaise. Et puis, c'est un des rares cafés fréquentés par les portugaises, les femmes. Sans doute parce que Baixa est tout près. Baixa, c'est la ville basse qui jouxte le Roiço. C'est le centre commercial. Aller à Baixa, à Lisbonne, ça veut dire aller faire ses courses. Les rues sont tracées au cordeau à la façon des villes américaines. Cela s'explique du fait même que le quartier fut totalement anéanti par le tremblement de terre du XVIIIe siècle. Je suppose que c'est vers 1755, je n'en suis pas sûr. Il a été entièrement refait en centre commercial par le marquis de Pombal, qui fut un premier ministre novateur et anticlérical. Et les statues d'ailleurs du marquis de Pombal ornent chaque carrefour de Lisbonne. Dans le quartier, il y a très peu de cafés, mais beaucoup de laiteries, d'exquises laiteries qui sont ornées d'azulejos bucoliques. Des azulejos qui retracent la vie de campagne, qui exaltent la vie à l'extérieur, la vie paysanne, la vie familiale. On y consomme toutes sortes de lait, de yaourt, de fromage et aussi des carioca de limão. Ce sont des infusions de peau de citron qui sont agréablement parfumées et rafraîchissantes. Le Tage, le fleuve si large parce qu'il a 2 kilomètres au moins de largeur, qui n'a pas le rôle de la Seine à Paris ou du Tibre à Rome, c'est-à-dire qu'il passe anonymement dans la ville, eh bien, le Tage longe des endroits fascinants de charme et de beauté. Le fleuve a des reflets dorés au soleil, c'est ce qui explique son surnom, Mer de Paille. C'est le surnom que lui donnent les Lisboas. Par la rue Augusta, la rue donc Augusta, en passant sous un arc de triomphe, on arrive sur l'une des plus belles places du monde, le Terreiro do Passo, la terrasse du palais. Son nom officiel, c'est la place du commerce. Mais les Lisboans préfèrent s'en tenir à l'ancien nom. Elle est tout simplement royale. De l'autre côté du Terreiro do Passo, il y a les ministères en rose et vert avec des arcades blanches. Et près de la place, il y a un endroit qui paraît étrangement intemporel. C'est le café Martino da Arcada. C'est un café du XVIIIe siècle, il est contemporain du Nicolas, mais qui, par bonheur, il n'a pas subi de transformation. Tout est d'époque. Et sur les tables de bois, à dessus de marbre, il y a partout des bols de soupe dont les Portugais sont friands, des salades et des beignets qui vous sont servis en même temps que la boisson qui est commandée, que vous commandez. Les tramways urbains longent les docks et les navires, et le port est le cœur même de la ville, autant que les églises baroques, que les bistrots. Autrefois, des cafés, il y en avait davantage à Lisbonne. C'était de véritables institutions. En s'y enfermer, on restait des journées entières à parler, à s'enflammer pour la musique, pour le théâtre, pour la poésie, pour la politique. Aujourd'hui, ils sont jugés peu rentables, enfin ils ont été jugés peu rentables par leurs propriétaires, et les plus grands cafés ont cédé leur place à des banques ou à des salles de spectacle. Mais il en reste bien assez pour contenter les touristes curieux. À l'opposé de Baixa se trouve le quartier le plus snob de Lisbonne, celui de Belém, qui regorge d'édifices de style manuelino, le style manuelin, ce style date de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire de l'époque du règne de Manuel Ier le Fortuné. Eh bien, ce roi, la fortune de ce roi a été traduite dans cet art architectural et décoratif complexe. Un peu comme le kitsch, l'art kitsch au XXe siècle. C'est-à-dire un mauvais goût qui s'est imposé et qui est devenu, qui s'est institutionnalisé. Et il y a là le palais des Hiéronymes où repose le grand découvreur Vasco de Gama, et aussi le grand poète Luis de Camoens, dont les Louisiades sont l'Odyssée du peuple portugais, comme le sont de l'Hélade, c'est-à-dire la Grèce, les poèmes homériques. Les Louisiades comptent les aventures de Vasco de Gama. C'est pourquoi on a réuni leurs sépultures sous un même toit. C'est dans ce palais que les Lisboans, de la bonne société, aiment à se marier. C'est du plus grand chic pour Lisbonne. Non loin, sur le Tage, en plein milieu, se dresse l'élégante tour de Belém. En face, il y a le musée de la marine, un des plus riches, sinon le plus riche du monde. Sur le quai, les Lisboans aiment à venir flâner et rêver devant l'édifice, là même d'où partirent les grands navigateurs qui firent au XVIe siècle du petit Portugal l'un des plus grands empires du monde, l'un des plus puissants. Lisbonne, d'où partirent tant d'explorateurs et de voyageurs, devint la terre adoptive de l'Arménien, rappelons-le, l'Arménien Gulbenkian, qui fit fortune avec le pétrole du Moyen-Orient. La fondation qui porte son nom recèle d'inimaginables richesses, des meubles, des vases, des toiles des plus grands maîtres, des mosaïques persanes, enfin toutes sortes de choses, des armes, des javelots en provenance de pays arabes, sertis de diamants, enfin toutes sortes d'objets hétéroclites et riches, très très riches.
Quis um dia namoraria ouvir um fado triste e saudoso, melodioso, doce e trinado. Um fado que outrora pelas noites fora à luz do luar uma fadista, grande bairrista, vinha cantar. Aquela voz que era para nós como uma prece e que hoje em dia namoraria, não mais esquece. Já não ecoa nesta Lisboa tal como era aquele fado que era cantado pela Severa.
Portugal. Le nom du pays contient l'appel de la mer, tout comme le nom de sa seconde métropole, Porto. Porto, l'Océane. Deuxième ville du Portugal, Porto est moins célèbre par ses monuments que par le vin qui assurait sa réputation de par le monde. La ville avec ses quartiers hauts et bas, à l'embouchure du Douro, et pourtant une ville baroque, surtout lorsqu'on la contemple de la Serra de Pilar, ou encore de la Tour des Clérigos, avec ses 225 marches. La beauté de la ville apparaît alors encore plus éclatante, elle apparaît à fleur d'eau. D'ailleurs, la ville est traversée, elle est pratiquement sur la mer et elle est traversée, elle est à l'estuaire du Douro, elle est traversée par le Douro qui se confond, qui la prolonge dans la mer. Et surtout lorsque, après avoir embarqué, face aux célèbres caves Ferreira, dont le bâtiment est en soi un magnifique édifice touristique, on découvre tous les charmes, le charme de cette ville. Les édifices religieux sont nombreux. On peut en visiter 15 dans la ville. Et dans le district de Porto, il y a 15 monastères et 16 églises qui font accourir les amateurs de l'art baroque qui viennent du monde entier. À pied, on ne se lasse pas d'arpenter le vieux quartier, les vieux quartiers proches de la cathédrale qui domine d'ailleurs, elle domine le centre avec ses ruelles en pente raide et toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Les rues qui arrivent sur le Douro l'enjambent avec de splendides ponts métalliques, des ponts ouvragés du siècle dernier. C'est la rue das Flores qui contient l'âme de la cité avec ses antiquaires et ses orfèvres. Et partout, il y a de belles tabernas, des tavernes et des restaurants où l'on déguste des langoustes, du poisson et le bacalao, la morue. La morue sous toutes ses formes et à toutes les sauces. Mais la grande spécialité de la région, ce sont les tripes à la mode de Porto, avec une sauce à base de vin de la région et aussi les succulents fromages de chèvre. Les habitants de Porto arrosent ces nourritures rustiques avec tous les vins portugais qui ne manquent pas au Portugal. Il y a le Dao, le Vinos Verdes, le Colares, le Bucelas, le Carcavelos, Moscatel, Madère et bien sûr le Porto. Les vins de Porto sont célèbres dans le monde depuis que les Anglais s'y sont intéressés pour ne plus acheter des vins français après leur conflit avec le roi Louis XIV. Les Anglais le consomment après le repas, surtout les townies dorées par l'âge. Les meilleurs portos sont les vintage et les blended. Et la sélection de ce vin repose sur une des plus sévères réglementations du monde. Le porto qui vieillit dans 80 adegas, les adegas sont des chais, contribue à la beauté des paysages du Haut Douro. Le vignoble couvre à peu près 30 000 hectares. Et près du village de Pinao, dans la proche banlieue de Porto, les vignes grimpent en gradins à l'assaut de la montagne dominant le fleuve. À la fin de septembre, aux vendanges, tout le pays chante et danse, et parfois le visiteur étranger a le plaisir de découvrir une petite ferme où l'on foule encore le raisin au pied. C'est en septembre que la région de Porto est la plus belle. Les montagnes boisées de Marao prennent toutes les composantes de couleurs jaunes, brunes et ocres. C'est la période d'abondance qui se traduit sur les visages souriants des paysans qu'on croise sur la route d'entre Os Rios, dans les vallées d'Ollo et de Tâmega. Lorsqu'on va visiter sur la rive gauche, on les voit, tous ces paysans qui reviennent et qui vous accueillent par des sourires, qui vous disent des mots de bienvenue, même si on ne comprend pas, ça touche. Et Vila Nova de Gaia, où se trouvent les anciens chais, disposés en quinconce dans des bâtiments magnifiquement ornés de faïences, les faïences des azulejos, au motif qui rappelle le style arabe. Les habitants de la région sont très accueillants. C'est avec le sourire qu'ils vous tendent le pain et le fromage et la gourde. Les maisons sont toutes ouvertes et toutes sont agréablement décorées. Un lieu seul interdit son entrée. C'est le lieu le plus fermé de Porto et il l'est depuis 2 siècles. C'est le British Factory House, le club des exportateurs anglais de vin de Porto. Il faut quitter Porto par le train, partir donc de la gare pour emporter une dernière image de beauté. La gare est ornée de fresques de carreaux azur vernissés et elle est située près de la place Musino de Albuquerque, dont l'énorme lion écrase l'aigle gigantesque. Il y a là un symbole de puissance familiale. Les Albuquerques, c'est un nom aux origines arabes, d'une des plus grandes et des plus anciennes familles du Portugal. Elle s'illustra aux Indes après que Vasco de Gama eut doublé le Cap de Bonne-Espérance, c'était en 1497, et que Cabral est abordé à Rio de Janeiro, c'était en 1500. Au nord de Porto, la ville industrielle de Guimarães présente sur la colline qui la domine un étonnant édifice baroque qui rappelle le décor de Marienbad, le décor de Marienbad du film de Alain René. C'est l'ancien monastère de Santa Marina da Costa qui a été transformé en hôtel avec d'immenses couloirs, des salons imposants, des terrasses et des jardins, des ruelles, des balcons fleuris, des donjons et des piloris, et surtout un calme profond. Un peu plus haut, la route mène à Braga, la cité religieuse avec ses petites maisons aux carreaux verts et rouges, un peu comme chez nous dans le temps. Puis, près de Braga, se trouve le sanctuaire de Bom Jesus do Monte, qui couronne les escaliers monumentaux dits des cinq sens et des trois vertus. Et ces escaliers sont montés annuellement, surtout à genoux, par des pèlerins venus de tout le Portugal. Un peu plus haut encore se trouve le mont Sameiro, qui est le deuxième lieu de pèlerinage après Fatima. Fatima, c'est le nom de la ville, le nom d'une ville qui a reçu celui de la fille du prophète de l'islam. Et c'est les Arabes qui avaient donné le nom de la fille du prophète de l'islam à cette ville qu'ils ont créée, et qui est devenue le site attirant la ferveur religieuse de tout le Portugal, depuis qu'en 1917, trois jeunes bergers aient déclaré avoir été les témoins de 6 apparitions de la Vierge. au sud de Porto, la ville d'Aveiro. La ville d'Aveiro dont la Ria, la vallée, forme comme une vaste lagune sans profondeur, quadrillée de chenaux et de marais salants. C'est le pays des moliceiros. Les moliceiros sont les éleveurs de moules, qui proposent d'ailleurs leurs crustacés à tout le monde. Ils en ont dans les poches, et surtout lorsqu'ils vont dans les bistrots de pêcheurs. Lorsqu'ils commandent une consommation, ils sortent de leur poche des moules, des huîtres, et ils commencent à les consommer au vu de tout le monde, et puis ils jettent les coquillages en plein dans le café. Aveiro, c'est la ville de la mer. Plus au sud, il y a Coimbra. Coimbra, qui est sur la route de Lisbonne, c'est une ville de terre, ou plutôt une ville de pierre, de sculptures et d'édifices de l'art manuelin. C'est une ville d'art et de culture. Coimbra, c'est le siège d'une ancienne université qui, depuis le XVIe siècle, initie aux humanités l'élite de la jeunesse portugaise. On visite Coimbra comme on visite Tübingen, Louvain ou Cambridge. On la visite pour son université. L'université est partout. Elle est partout dans la ville. Et dans les facultés, les étudiants portent la toge sombre et la coiffe sapenciale. Au musée Machado de Castro, qui est un ensemble unique de sculptures médiévales, on peut contempler une étrange vierge enceinte du XIVe siècle et un Christ noir, squelettique, qui rappelle la souffrance des habitants du Sahel. Et il y a aussi un Saint Jean-Baptiste rose à l'allure diabolique. La cathédrale de Coimbra, le plus récent des édifices, date du XVIIe siècle. Les jésuites qui l'édifièrent lui donnèrent une allure inquiétante. La religion est omniprésente. Elle l'est surtout par les édifices imposants. Ils sont faits pour vanter la grandeur de la religion. Témoin, le monastère dominicain de Batalla, qui est un modèle parfait de l'art manuelin, cet art au moment de sa splendeur. Il y a également le monastère cistercien d'Alcobaça, qui est admirable par son austérité et ses voûtes en ogives croisées. Il ne demeure cependant aucun vestige religieux musulman, bien que ça et là, on croit reconnaître tel détail, telle forme. L'art de l'ogive vient certes des Arabes, et il est partout. C'est comme dans les cris du fado, on peut entendre les résonances du chant arabe comme dans le fandango, le flamenco. Les huit mesures du fado chantent en strophe le destin, tout comme le flamenco. Le flamenco, son cousin espagnol. Il est accompagné à la guitare sur un rythme fortement syncopé. Actuellement, le fado ou fadino se remet mal des coups qui lui furent assénés depuis quelques décennies. Il a été jugé gauchisant du temps de Salazar, du temps de la dictature fasciste, et il est passé pour réactionnaire après la révolution des œillets, surtout auprès du ministre Vasco González, qui l'inclut dans les 3 F, opium du peuple, à combattre, à savoir donc le fado et le bigotisme de Fatima et le football. C'est pourquoi il est devenu rare de trouver un lieu où il se chante. Et c'est ce qui explique pourquoi nous étions là, à la fois curieux et heureux d'aller sur les hauteurs de Lapa, à Lisbonne, écouter Maria da Fé, la continuatrice de Amalia Rodriguez, et qui, ce soir-là, lançait de sa voix douloureuse l'évocation triste d'une splendeur passée. Point n'est besoin de comprendre la langue. C'est l'intraduisible saudade portugaise, le plaisir amer de la fatalité triste, la douceur tendre des amours impossibles sur des accords en mineur qui apaisent l'âme.
E eu fiquei como pregada no degrau do patamar. Nem boa noite se ouviu, e eu fiquei. caí como pregada no degrau do patamar. Embaixo a porta rangeu, brutal e raivosamente, como o rugir de uma fera. O dono esgonzos bateu, naquele modo indiferente de quem jamais nada espera. O dono esgonzos bateu, naquele modo indiferente de quem jamais nada espera. Fui a correr à janela, nem uma sombra de vida na minha rua deserta. Vi só a noite, só ela, negra serpente estendida, de grande goela aberta. Vi só a noite, só ela, negra serpente estendida, de grande goela aberta. Então achei-me sozinha, no mais cruel abandono, presa à minha dor sincera. Como uma triste andorinha que ficasse no outono à espera da primavera. Como uma triste andorinha que ficasse no outono à espera da primavera. Já tantos meses lá vão, e eu sempre à espera daquele, porque a minha alma sorriu, que sem motivo zão, saiu-me zangar com ele, pôs o chapéu e saiu, que sem motivo. Chapéu isso.